Salut à tous et
Bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org, destiné aux pratiquants de musculation sans dopage, que j'ai co-créé en septembre 2009 et avec lequel j'ai réalisé plein de projets. Je vais essayer de ne pas trop m'y attarder dans ces longues introductions dont vous avez l'habitude. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir mes différents sites, donc superphysique.org et notamment superphysique-nutrition.fr, sur lequel on propose une marque de compléments alimentaires surtout destinée à améliorer votre santé. Également une application SP Training, dont on vient de faire la mise à jour, la V3. J'en ai longuement parlé dans les précédents épisodes et dans tous mes podcasts, les différents que j'anime, que ce soit LeaderCast, Superphysique Podcast ou encore Les Secrets du Sport. Sachez qu'une petite mise à jour vient d'avoir lieu encore sur la V3, notamment concernant les différents niveaux que vous pouvez passer quand vous vous entraînez, à savoir fer, cuivre, bronze, silver, gold, légende, titan et olympe. Il n'y a pas beaucoup d'olympe dans toute ma carrière depuis plus de 20 ans. Je n'ai vu que deux niveaux olympe, puisqu'à la base, ils étaient tirés du site clubsuperphysique.org, avec lequel j'avais organisé des compétitions, les Super Physique Games, dont vous pouvez retrouver d'ailleurs les vidéos. En tapant Super Physique Games sur YouTube, on faisait des petites vidéos, des belles vidéos chaque année de l'événement pour montrer à quoi ça ressemblait une compétition entre pratiquants naturels de musculation. Bref, SP Training donc disponible sur le Play Store et sur iOS. Également mon site rudycoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, du vrai coaching. J'ai encore eu ce matin un échange avec possiblement un futur élève qui me racontait ses mauvaises expériences avec d'autres coachs à distance. Ça ne m'étonne pas, puisque pour beaucoup de gens, le coaching se résume, beaucoup de coachs, entre guillemets, se résume à envoyer un programme et à répondre de temps en temps aux emails. Or, ce n'est pas du tout ça le coaching. On en parlait dans l'épisode 49 des Secrets du Sport avec Nicolas Martin. C'est avant tout de l'humain, la communication, du contact, même à distance. C'est communiquer, c'est poser des questions, c'est donner des réponses, du moins quand on a les réponses. C'est échanger, c'est essayer de coller au mieux aux contraintes de son élève. Moi, j'aime bien appeler ça un élève parce qu'on est dans l'apprentissage. Mais bref, ça ne m'étonne pas. Donc, également des livres comme le guide de la prise de masse naturelle, le guide de la sèche naturelle, mais également mes deux livres en rapport avec ces podcasts, The Leader Project, mon meilleur livre sur comment vivre de sa passion, que je vous invite, pour ceux qui voudraient se mettre à leur compte, à lire avant tout. Et mon dernier livre, The Life, que j'envoie également, comme les autres livres, une fois par semaine de manière dédicacée. Enfin, il y a également des formations en fonction de votre morpho-anatomie avec mon produit phare, la formation Superphysique sur méthodesp.rudicoya.com. Je vous en parle, j'en parlais plus trop. Et en fait, derrière moi, j'ai eu pas mal de demandes sur cette formation, pas mal d'achats, de suivi dessus. Sans doute dû au fait que, comme je donne des cours en BPJEPS et en CQP, on se rend compte que finalement, ce que je raconte, du moins pour ceux qui ne me connaissaient pas, que ce que je raconte, eh ben, c'est plutôt pas mal. Bref. Et enfin, mon site secretdukayak.org, auquel est adossé mon podcast Les Secrets du Sport. Je n'avais pas pu sortir d'épisode la semaine dernière parce que toutes les personnes que j'avais contactées ne m'avaient pas répondu. Puis j'ai eu l'idée, suite à un podcast de mon pote Nico, du podcast Endurance 30, de faire un podcast spécial référence sur la variabilité de la fréquence cardiaque avec Sylvain Fréville, ce qu'on a fait hier, mais que j'ai sorti directement. Je vous invite vraiment à aller l'écouter si vous êtes intéressé par le HRV, la VFC. C'est hyper intéressant. Il y a, je pense, ce serait présomptueux de dire qu'il y a tout, mais il y a vraiment beaucoup de réponses aux questions qu'on peut se poser. Et ça fait vraiment podcast spécialiste de référence, ce qui change habituellement des podcasts qui abordent ce sujet de manière très sommaire, très succincte, où on reste un peu sur notre faim. Bref, si ça vous intéresse, c'est l'épisode 51 des Secrets du Sport. Comme d'habitude, c'est toujours un peu compliqué d'avoir des réponses aux personnes que j'écris pour le podcast, malgré le fait que parfois elle voit le message ou quoi. Mais ça, je vais y revenir un petit peu après. Je vois bien, et je pense que vous savez aussi bien que moi, comment fonctionne le monde. Bref, si vous intéresse, vous savez où me trouver. Également, je voulais rappeler que dans à peu près une semaine, donc le 27 et 28 novembre, je serai à Nevers pour l'Elite Training Symposium. Elite Training Symposium où je vais intervenir sur l'analyse morpho-anatomique, sur des petites conférences de 45 minutes. Donc, je l'ai déjà dit, mais je ne pourrais pas aborder en détail l'analyse morpho-anatomique. En général, il me faut deux bonnes journées. Mais vous en parle, parce que s'il y en a d'entre vous qui y sont, n'hésitez pas à m'écrire. Et si certains d'entre vous veulent se faire analyser et veulent servir en plus de cobaye, entre guillemets, durant ces workshops, ces petites conférences, et bien ramenez un short et je me ferai un plaisir de vous prendre comme modèle pour montrer comment analyser quelqu'un. C'est toujours mieux quand on a un cobaye plutôt que quand on fait comme ça sur un tableau ou qu'on parle. C'est tout de suite, c'est beaucoup, c'est très très visuel et c'est très comparatif. Donc si vous êtes plusieurs à ramener un short et à pas avoir peur de vous mettre torse nu et que vous êtes pas si gras que ça, vous n'êtes pas un amateur de bière et de pizza régulier, eh ben, n'hésitez pas à me contacter et à venir avec une tenue de sport. Et s'il y en a qui s'intéressent, donc comme c'est à Nevers, donc je ne suis pas le seul à intervenir évidemment, on est toute une tripotée, il y a un code, c'est SP20, je crois que ça vous donne 20% sur l'événement. Je crois que pour l'instant, il y a presque 200 inscrits aux dernières nouvelles. Je ne sais pas à combien de places il limite, mais bref, si vous êtes intéressé par l'entraînement, que vous avez des questions, que vous cherchez à rentrer en contact avec des gens qui ont de l'expérience, c'est sans doute l'endroit où il faut aller parce que c'est le seul qui existe pour les coachs. On est loin des salons comme à l'époque où j'allais à Paris, où il y avait a priori une partie coach, mais qui était très très minime et très très orientée fitness. Là, on est quand même très orienté préparation physique. D'ailleurs, il y aura Sylvain, il y aura Nico, il y aura Fred Aubert, il y aura mes potes influenceurs training thérapie, petite dédicace et cadeau. Il y aura Aurélien Broussal, bref, il y a un parterre de monde. Il y aura Sofiane que j'ai dans le podcast. Il y aura vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Donc, si ça vous intéresse, Elite Training Symposium, c'est le 27-28 avril. Et comme je dis toujours, on regrette toujours ce qu'on ne fait pas. Et mieux vaut le réel que le virtuel. Même si on va y revenir un petit peu encore une fois après. Aussi, avant d'attaquer, je voulais remercier mes nouveaux patriotes de la semaine, à savoir Juliette et Flo. Que je connais bien, parce que Juliette est mon élève en coaching à distance, et Flo, c'est lui qui m'a posé la question sur l'IA la semaine dernière, et qui m'écrit régulièrement pour m'envoyer des liens très intéressants, qui participe également au forum Superphysique. Je rappelle que si ça vous intéresse, sur patreon.com/leadercast, qui est en lien dans la description, vous pouvez retrouver deux contenus exclusifs, un podcast plus personnel, sur des choses parfois du quotidien, que je ne souhaite pas partager en public. Donc ça sort tous les mercredis. En ce moment, je suis un peu en avance, je sors le mardi. Mais normalement, c'est tous les mercredis. Un podcast d'environ 25, 30, 35 minutes. Ça dépend de l'inspiration. Vous savez, je suis très bavard. Et j'ai toujours plein de conneries à raconter. Et surtout, la revue de presse qui sort tous les dimanches avec mes trois meilleurs liens de la semaine. Pour l'instant, je ne suis pas convaincu cette semaine d'en trouver trois, mais on n'est que jeudi. J'en ai un qui est vraiment bien. Et des fois, j'écoute des trucs, on me dit, ah, écoute ça, je trouve ça assez nul à chier pour le dire carrément. Donc, ça ne mérite pas que je le mette dans la revue de presse, mais mes trois meilleurs liens, afin justement de vous faire gagner du temps, de ne pas écouter, entre guillemets, ou de cliquer sur des choses qui sont un peu inutiles, sachant que moi, une grosse partie de ma journée consiste à écouter, à me documenter, à chercher des réponses à mes questions. En ce sens, bah, je vous fais gagner du temps avec mes meilleurs liens, que ça peut être des articles, ça peut être des podcasts, ça peut être des vidéos, ça peut être des documentaires. Bref, ça peut être des livres parfois, si j'estime qu'ils sont vraiment super. D'ailleurs, je viens de finir le livre Mastermind de Napoléon Hill. Napoléon Hill, c'est le gars qui avait écrit Réfléchissez et devenez riche, un livre qui s'est vendu à plus de 80 millions d'exemplaires et qui est, je l'avais lu quand je devais avoir 18-20 ans, donc je ne m'en souviens pas parfaitement. Je me souviens qu'il conseillait de transformer l'énergie sexuelle en énergie créatrice, de tout garder pour soi. Ça m'avait bien fait tilt à l'époque, c'était assez novateur, on va dire, dans mon parcours de lecteur. Et bref, donc là, c'est un peu, quelque sorte, ses mémoires. Napoléon Hill, c'est un type qui s'est intéressé, entre guillemets, il le dirait comme ça, à la philosophie du succès, pourquoi les gens réussissent, ce que j'ai fait pendant un temps. Jusqu'à temps de bien comprendre comment ça fonctionnait, hein, c'est voilà que j'ai résumé en grande partie dans ce que j'appelle le leaderbook, les habitudes des gens qui réussissent. Leaderbook, c'est pareil, c'est un petit bouquin, c'est un PDF, donc c'est pas un livre papier, qui est sur leadercast.fr que j'avais fait en 2018-2019 à partir des autobiographies et biographies que j'avais lues. Aujourd'hui, c'est très dur pour moi d'en lire. J'ai toujours l'impression que c'est des histoires romancées qu'on me raconte n'importe quoi, mais bon, comme j'en ai lu des dizaines et des dizaines. J'ai fait une sorte de compilation des habitudes de ce que font les gens qui réussissent. Et donc, ça donnait le petit leaderbook qui fait quand même une soixantaine de pages avec bah, les habitudes des gens qui réussissent. D'ailleurs, il faudrait que je le relise parce que Vous n'êtes pas sans savoir que ce qu'on lit, ce qu'on fait, influence nos pensées, nos actions, notre manière d'être, qui on est. Et autant se mettre des bonnes ondes dans la tête, des choses qui font réfléchir. En tout cas, Mastermind de Napoleon Hill, vraiment bon bouquin. C'était un peu dur au départ. C'est écrit il y a presque 100 ans, donc forcément, je bois un petit coup de café. C'est pas le style d'aujourd'hui, d'autant plus que c'est une traduction. Mais bon livre, ça c'est un livre que je vais garder. Là j'en ai attaqué un autre. Bah, c'est pas terrible, j'ai du mal à le lire, donc je pense que je vais aller faire un tour en librairie pour voir si je ne trouve pas d'autres livres à lire, que celui-là est pas terrible. Ma liste de livres grandit. D'ailleurs, Alix, si tu m'écoutes, toi qui es venu à la Villa Superphysique, tu as oublié de prendre le livre que tu voulais prendre dans la liste de livres à prendre, qui trône à la Villa Superphysique. Mais bref, à ce sujet. J'en parle, j'oublie tout le temps. Si vous êtes intéressé de passer quelques jours sur Annecy et que vous suivez un peu mon contenu, vous êtes un peu sur la même longueur d'onde, n'hésitez pas à me contacter pour loger à la Villa Superphysique afin de visiter la région. Pourquoi pas d'aller faire ce que je vous emmène, faire du kayak. Je dois recevoir mon kayak biplace normalement dans les jours qui arrivent. Donc je dois contacter le vendeur. Ouais, on va dire ça, le vendeur. Et pareil, aller à la salle de muscu, au Superphysique Gym, voir des bonnes personnes. Souvent, les gens sont très surpris quand ils viennent à la Villa Superphysique et qu'ils vont à la salle, donc à ma salle de Superphysique Gym, qui est une salle pas vraiment ouverte au public. Et ils se disent, c'est super, les gens parlent entre eux, tout le monde est sympa, tout ça. Et de ce que je comprends, c'est que la plupart des salles aujourd'hui, personne ne se parle, tout le monde a ses écouteurs, il n'y a pas d'ambiance, c'est assez mou. C'est devenu très individuel. Et moi, avec la muscu, dans tous mes projets, ça a toujours, pour ça que je parle d'élèves, il y avait le club Superphysique, il y a les forums Superphysique. Ça a toujours été d'essayer de rendre la musculation comme une activité individuelle collective. Parce que j'ai tout de suite compris, au début je l'avais pas peut-être conscientisé, mais je l'ai vite appliqué, c'est qu'on progresse mieux ensemble. Que l'émulation, quel que soit le domaine, pousse vers le haut. Alors certains diront, ah non, ça pousse vers le bas, ça nous montre nos limites. Si lui fait ça, moi je ne peux pas y arriver, j'ai pas son potentiel. Et donc, c'est comme ça qu'on en arrive parfois à voir, notamment sur les réseaux, des gens qui critiquent, disent, mais non, c'est pas possible, alors qu'on n'importe quoi. Moi, je suis toujours surpris quand des gens essayent de tourner en ridicule le fait que pendant des années, je n'ai pas fait d'écart alimentaire, que même à Noël, bah, je mangeais ma diète, j'étais vraiment motivé, tout ça. Moi, j'y vois, entre guillemets, de la motivation, de la discipline, quelqu'un qui se donne les moyens. Voilà, ça me. Quand j'avais l'impression de voir ça dans les magazines, du moins les histoires qui étaient racontées, et ben je me disais, waouh, ouais, putain, c'est exact, c'est ça le chemin, ça m'inspirait. Je me disais, voilà, c'est ça le chemin. Et aujourd'hui, on voit que pour beaucoup de personnes, et ben, dès que quelqu'un fait les choses, essaye de se donner les moyens, on essaye de dire, c'est pas vrai, c'est pas possible. Donc on est loin de l'émulation collective qui m'est chère, et on est plutôt dans essayer d'imposer des limites à ceux qui s'en posent moins. Ou pas, on s'en pose quand même toujours, je pense, mais c'est vrai que c'est assez flagrant. Donc je suis plutôt dans le sens m'inspirer de ceux qui font, en me disant, putain, mais c'est vachement bien ce qu'il fait, même si ça peut être un concurrent ou quoi, en me disant, qu'est-ce que je peux apprendre de lui, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que je peux faire. Et c'est comme ça que je regarde, bah, par exemple, ce que font d'autres marques de compléments alimentaires, même s'il n'y en a pas beaucoup desquelles je me sens proche, parce que c'est pour beaucoup des gros holdings. Donc, des boîtes gérées par des fonds millionnaires, si ce n'est pas milliardaires des fois, des boîtes avec des fois des centaines de salariés, ce qui n'est pas du tout notre but, ou même sur les applications. On regarde beaucoup les applications, notamment de course à pied, que ce soit RunMotion, que ce soit Campus Coach, qui est dédicace à mon pote Tristan, que je vois notamment également à l'Electric Symposium, qui interviendra sur les seuils. Les seuils n'existent pas, mais bref, vous le savez déjà si vous avez lu le guide ultime de l'endurance, mais ou pareil, ou Alpitraining, que je dois rencontrer cet après-midi au moment où je fais le podcast. Donc, je regarde vraiment un peu tout ce qui se fait pour m'inspirer, pour essayer de me tirer vers le haut. Et donc, bref, c'est ce que je voulais vous partager là-dessus. C'est l'émulation collective, c'est progresser ensemble. Et je trouve très surprenant aujourd'hui qu'on essaye de se tirer vers le bas. D'où l'importance, je reviens toujours, au fait de se construire un environnement, de se construire, je veux dire, au maximum un environnement de qualité, en faisant rentrer dans sa tête les bonnes pensées, en fonction de qui on veut être, que ce soit par les podcasts qu'on écoute, que ce soit par les livres qu'on lit. Lisez des livres, vraiment c'est important, même si vous lisez que 10-15 pages par jour. Pour moi, une journée ne, peut pas se concevoir si on n'y apprend rien. Si c'est juste de la production sans rien apprendre, alors ça peut arriver. Mais la plupart du temps, il faut se poser pour lire quelque chose, que ce soit ou écouter un podcast. Mais écouter vraiment un podcast, pas juste entendre, écouter, apprendre des choses, lire. Lire, pour moi, c'est vraiment. Là, quand vous lisez Mastermind de Napoleon Hill, comme c'est. Ça a plus de 100 ans, les mots même traduits sont particuliers, ça donne du vocabulaire. Ouais, c'est intéressant. Et bref, voilà ce que je voulais dire. Donc, si ça vous intéresse, patreon.com/leadercast, c'est en lien dans la description. Et vous inquiétez pas, partisans de l'émulation collective, je vais essayer de vous tirer vers le haut, quel que soit le domaine, du moins sur ceux que je regarde, et je suis plutôt holistique. Alors, je voulais aujourd'hui répondre à un long commentaire que j'ai reçu suite à mon précédent podcast sur ce que je pense de l'IA, que Flo, nouveau patriote, m'avait posé. C'est de Tsunami IA. Donc, il a un podcast justement sur l'IA. Et donc, il a répondu un long message qui est hyper intéressant et qui va me permettre d'asseoir, entre guillemets, de préciser ma philosophie de vie, bien que ceux qui ont The Life la connaissent déjà. On va répondre à son message. Je ne vais pas le lire au complet parce qu'il est assez long, mais il est intéressant. Salut Rudy, tout d'abord, merci pour le contenu. J'ai découvert ton podcast via Bruce. Tony, donc Une vie de liberté, mon ancien élève, que j'avais également aidé à lancer un peu ses différentes activités avec mon coaching Leadercast. Ton contenu est très pertinent et m'aide à réfléchir sur de nombreux sujets. Je fais partie de la majorité silencieuse, mais le sujet de ton épisode étant un domaine qui me tient à cœur, je voulais te faire un retour et apporter des pistes de réflexion. Je comprends tes craintes concernant la facilité de la perte de réflexion. C'est vrai, on a tous tendance à chercher le confort. Comme tu le disais avec l'exemple des voitures modernes par rapport à ta première Twingo. Mais est-ce que l'IA est vraiment si différente des autres outils qu'on a développés au fil du temps? Alors, je commence par cette question. C'est peut-être pas si différent, mais ça ne veut pas dire que je suis pour tous les outils qui ont été développés. Il y a plein d'outils, moi ça ne me gênerait pas qu'on n'ait pas de direction assistée sur les bagnoles. Ça ne me gênerait pas que les voitures automatiques n'existent pas. Tu vois, pour moi, tout ça, c'est des pseudo-améliorations. Ils ne sont pas bonnes pour nous. C'est et comme je vais lire après la suite de tes messages, c'est pas parce que ça a été accepté tout ça que je suis pour. Est-ce que je suis pour le smartphone? Pas du tout, pas du tout. Moi, j'aimais bien. C'est peut-être une histoire, c'est peut-être un peu de la romance, mais j'aimais bien. Tu donnes rendez-vous pour t'appeler, tu appelles dans une cabine téléphonique, tu as acheté des cartes. Je dois avoir encore une collection de cartes téléphoniques chez mes parents, voilà. Ou tu étais chez toi, tu sais, tu tournais le tourniquet pour faire le numéro. Je trouvais ça super, ça sonnait chez toi, c'était bien, tu vois. Tu étais moins distrait. Moi, je trouvais ça mieux. Je trouvais que ça avait plus de poids, alors que là, quand quelqu'un t'appelle, moi, je déteste qu'on m'appelle, donc je réponds jamais au téléphone, sauf si on a pris rendez-vous ou quoi. Mais je trouve que ça perd de son importance, tu vois. C'est comme si cette surdisponibilité, c'est comme la surinformation. En fait, c'est comme si ton temps, ta surdisponibilité, voilà, ton temps valait plus rien, tu vois. Il y en a des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas, qui m'appellent, 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 ils voient que je ne réponds pas, et quand je réponds, ils me disent, ouais, tu ne réponds pas. Mais en fait, parce que moi, je suis occupé à autre chose. Je suis dans ma tête, je suis en train de lire un bouquin, je suis en train d'écrire un truc. D'ailleurs, petite histoire drôle, j'ai une idée d'article, et je me dis, bah, tiens, je vais voir ce qu'il y a sur le sujet. Et je tape l'idée d'article, et comme toujours, je tombe sur un article que j'ai déjà écrit. Alors, je l'ai écrit sur mon site secretdukayak.org, et il est numéro 1. Avec pas le mot-clé que je voulais utiliser. Et donc, je suis en train de le réécrire dans une version évoluée, on va dire, sur rudycoya.com, une version, une V2 beaucoup plus importante. Mais c'est pour dire l'anecdote, parce que souvent j'en parle et je dis, voilà, quand j'ai une idée d'article, je tape, et puis merde, en fait, j'ai déjà écrit. C'est la poisse. Donc, bref, je vais prendre tes exemples. Est-ce que tu remettrais en cause, en question, l'utilisation de ton ordinateur pour revenir au papier et au stylo? Pourtant, l'ordinateur facilite énormément l'écriture, n'est-ce pas? En fait, ça ne me gênerait pas. Le problème, pour moi, c'est qu'on s'est habitué, en fait, à tous ces outils et qu'aujourd'hui, c'est comme si ils étaient devenus indispensables. Demain, mon ordinateur ne marche pas. Tu vois, des fois, j'y réfléchis, je me dis, est-ce que ce ne serait pas une machine à écrire, tu vois, pour écrire Et tu vois, quand tu as une machine à écrire, si tu fais une faute, ta page est morte. Tu vois, tu peux pas revenir en arrière. Si tu écris à la main, tu mets du typex. Et ça éviterait, tu vois, si ce n'était pas facilité, qu'on ait, par exemple, plein d'articles de merde sur le net, qu'on n'arrive plus à trouver une information sur Internet, qu'il y ait autant d'informations, de mauvaises informations pour moi, que ce soit très généraliste, qu'on n'arrive plus, que même les IA, là, comme ChatGPT, n'arrivent pas à donner des réponses précises, tu vois. Donc, pour moi, ça ne me gênerait pas. Et ça remettrait, tu vois, quand tu écris, bah, je vois, mais des fois, j'écris quand je fais mes dédicaces ou quoi, des fois, j'en fais un peu, et je me dis, putain, j'ai mal au pouce, tu vois. C'est pas normal. C'est pas normal. Car pour moi, c'est pas ma norme. Donc, ça ne me gênerait pas. Et le fait que l'ordinateur ait été inventé, voilà, tout ça, même pour écrire, oui, moi, j'écris beaucoup. J'écris à l'ordinateur, mais ça ne me gênerait pas d'écrire à la main. Je trouvais ça très romantique, tu vois. Quand j'étais gamin, j'aimais bien écrire au stylo à plume. Et voilà, et ça me gênait pas. Et comme là, tu vois, je prends toujours des notes sur mon cahier. Ouais, ça me gêne pas spécialement. L'IA, c'est un peu pareil. Un outil qui nous permet d'aller plus loin, plus vite, sans forcément nous rendre plus bêtes. Alors là, on va y revenir. L'exemple que tu donnes par rapport à la calculatrice, que tu compares au calcul mental, ne nous rend pas plus bêtes, selon moi. Le cerveau est capable de s'adapter et d'évoluer en fonction de son environnement. Si on ne pratique pas le calcul mental, on sera moins bon dans ce domaine. Mais ce n'est pas pour autant qu'on devient stupide, car on peut tout autant développer des capacités différentes. Je pense par exemple à un développeur qui utiliserait un logiciel pour faire des calculs complexes impossibles de tête et qui a donc entraîné son cerveau à conceptualiser des calculs complexes tout en se reposant sur l'ordinateur pour l'exécution. Moi, là où ça me gêne, Tsunami IA, Tsunami IA, on va t'appeler Tsunami ou Tsu, je ne sais pas encore. Moi, ce qui me dérange, c'est que si tu n'as pas de calculatrice, tu es obligé de faire du calcul mental. Tu es obligé de compter. Tu vois, il n'y a pas d'histoire. Là, tu as la calculatrice, tu ne le fais plus. Franchement, c'est combien de gens, et je dis pas ça méchamment, tu leur dis 8 fois 9, 7 fois 8, ils ne savent même plus leur table de multiplication, ils n'arrivent même plus à faire ce calcul mental. C'est, tu vois, toute cette accroissement de la technologie disponible a facilité notre confort et nous a rendu plus bêtes. Si tu n'es plus capable de faire ça, ce qui est quand même une base, tu n'arrives même plus. Et moi, je le vois, des fois, je dois faire une division, je suis là, je dis putain, comme je m'en sers plus, je le perds. Alors, bien sûr, c'est ce que tu n'utilises pas, tu le perds, c'est pareil pour le mouvement, c'est pareil pour tout ça. Mais non, pour moi, c'est ça nous rend plus bêtes, forcément. Tu n'arrives plus à le faire. Alors là, tu me prends un exemple, pour moi, c'est un contre-exemple. C'est comme dire, là, j'écoute l'interview d'un triathlète, le mec s'entraîne 30 heures par semaine ou 35 heures par semaine. Ah, pour être champion, il faut entraîner 30 à 35 heures. Ouais, mais encore faut-il que tu sois capable de le faire. Tout le monde n'est pas développeur. Tout le monde n'a pas besoin de faire des calculs complexes impossibles de tête. Et les bases, elles sont plus là. C'est, tu n'arrives même plus. Je t'ai dit, j'ai pas mal d'élèves qui sont profs dans les écoles, des profs de maths qui me disent, en sixième, ils savent même pas faire les tables de multiplication. Les additions, c'est déjà compliqué, des fois. Donc, ça, c'est. Ouais, pour moi, c'est un contre-exemple ce que tu donnes. Et c'est sûr que tout ce qui est calculatrice, bah là, ça appauvrit le truc, ça nous rend plus faibles. Tu vois, t'écris plus sur un papier, bah tu perds une sorte de dextérité dans tes doigts aussi. Tu vois, tu utilises moins tes. Je le vois, je te donne un autre exemple. Il y a plein de machines de muscu qui existent. Bon, il n'y a pas trop de révolution sur le sujet, mais si tu n'utilises que des machines, au bout d'un moment, tu n'es plus capable de bouger, tu vois, de faire un squat à vide, tu n'es plus capable de lever les bras au-dessus de la tête, il y a plein de mouvements. T'es plus capable de faire une rotation thoracique, il y a plein de mouvements que t'es plus capable de faire. Et tu vas dire, ouais, mais c'est le progrès, regarde, il est plus musclé. Non, c'est pas le progrès selon moi. C'est le progrès dans un domaine, mais au détriment de ce qui devrait être la base quand même. Même si tout le monde n'est pas capable, d'un point de vue configuration osseuse, morpho-anatomique, capacité de mouvement, de faire un squat à vide, pour reprendre l'exemple, et je le montre assez dans les formations CQP ou BPJEPS, prenant souvent des cobayes, je trouve un petit coup.
Il n'empêche que quand tu rends quelque chose facile,
Que tu le facilites, tu perds quelque chose. Tu perds pour moi ce qui fait une partie de l'humain. Je continue. La technologie crée en revanche une dépendance. Sur ce point, je suis d'accord. Mais elle nous permet d'évoluer et d'aller plus loin dans tellement de sujets. Ce serait dommage de repasser au canoë en bois quand on a la possibilité d'avoir des kayaks en carbone. Eh bien, je trouve pas. Justement, moi, comme c'est un milieu que je connais bien, chaque année ou presque, allez, tous les 2-3 ans, pour pas exagérer, les marques sortent un nouveau kayak ou un nouveau canoë en disant celui-ci va plus rapide, on a fait des tests aussi. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que chacun n'a pas le même matériel, parce qu'en kayak, ça coûte un saladier. Alors bien sûr, si tu es champion, on t'offre le kayak, mais pour donner un ordre d'idée, un kayak en carbone, tout ça, c'est entre 4 et 5 000 euros. Okay? Donc c'est pas donné. Une pagaie, avant c'était un peu moins de 400 euros, maintenant on est presque à 500 balles. Donc si tu n'as qu'une pagaie, pourquoi pas, mais si tu veux être bon, il t'en faut plusieurs, pour pouvoir varier, pour pouvoir faire des tests. Bref, c'est un sacré bordel. Et donc, en fait, pour moi, cette amélioration du matériel, c'est que du capitalisme, en fait. C'est celui qui a le plus d'argent, bah, réussit. Tu vois? Moi, ce que j'aimerais, dans un monde idéal, peut-être je suis utopiste, c'est que, et peut-être diront certains que je suis communiste, mais c'est que tout le monde a le même kayak. Voilà. Tout le monde a le même. Et à partir de là, il n'y a pas d'histoire d'évolution technique, d'évolution technologique. Quoi. C'est du pipeau, tout ça. C'est du pipeau. Donc, et on le voit dans tous les domaines. Tu prends le téléphone, il fait encore des meilleures photos, il fait encore des meilleures vidéos. À la fin, tu ne sais pas sur où on les angles du kayak. Alors bien sûr, le puriste va dire, mais non, mais c'est le gars qui pagaie mieux que l'autre, tout ça. Des fois, c'est le bateau. Le bateau va plus vite. Tu le mets en bassin de carène, le bateau va plus vite. Point. Il n'y a pas de débat. Même si on te raconte des arguments marketing fallacieux, le bateau est super rapide et ceci, cela. Non. Moi, ça me ferait plaisir qu'il y ait un bateau unique, différentes stabilités, et voilà, qu'il n'y ait pas de marché capitaliste sur le sujet. Et je continue. Selon moi, accomplir quelque chose grâce à un outil ne retire pas le sentiment d'accomplissement. Des chaussures en carbone ou des tenues de natation flottantes aident les sportifs à faire tomber les records. Et moi, je te le dis, accomplir quelque chose grâce à un outil me retire le sentiment d'accomplissement. Si je fais un 10 km et que je fais, je sais pas, une connerie, 45 minutes avec des chaussures classiques et que demain, je mets des chaussures carbone et je fais 42-30, c'est pas le même accomplissement. Alors bien sûr, tu peux te baratiner, tu peux te mentir, tu peux te raconter l'histoire que tu veux, mais ça enlève ce que tu fais. Pareil, tu mets une combinaison flottante de natation, c'est pas pour rien qu'ils ont enlevé les combinaisons en natation. Ils ont vu et ils ont bien fait. Alors, à mon sens, ça a moins de sens. Si demain, tu fais un propre site, voilà, déjà avec des CMS qui facilitent le truc, et que tu passes un peu de temps dessus, c'est toi qui fais les trucs, qui mets en place, tu fais des petites erreurs, tout ça, quand tu le fais, quand tu le sors, tu es content. Si demain tu parles à une IA, tu dis voilà, je veux que le site soit comme ci, comme ci, comme ça, comme ça. Il n'est pas comme tu veux, tu reparles. Tout se fait automatiquement. Où est l'accomplissement? Tu deviens en plus inutile. Et je parle énormément du sentiment d'utilité et de qu'est-ce qui nous rend utile, entre guillemets, dans cette société, à mes yeux, dans mon bouquin The Life, en lien dans la description. Mais en fait, tu deviens inutile. Si tu as juste besoin de parler à ton assistant virtuel, pour lui dire, tiens, fais ci, fais ça, blablabla. Et puis que ça t'arrive, où est le goût de l'apprentissage, tu vois? On perd ce truc-là. T'as plus besoin d'apprendre à calculer, à compter dans ta tête, t'as la calculatrice. T'as plus besoin d'apprendre à écrire, j'ai un ordinateur direct, tu sais même plus écrire. J'ai pas besoin de m'entraîner autant pour faire 42-30 dans mon exemple, parce que j'achète les godasses, je gagne 2 ou 3 minutes. Bien sûr, je caricature, mais c'est ça. Donc, on pourrait se dire que c'est injuste vis-à-vis des anciens sportifs qui n'avaient pas accès à cette technologie. Mais évidemment, évidemment que c'est injuste. Comment tu peux expliquer que le record de Kevin Young, 400 mètres, 46,78 de mémoire, quelque chose comme ça, 46,80, je suis plus sûr, les puristes me corrigeront, a été battu de presque une seconde par Kerstin Warholm. C'est impossible, c'était un record qui était imprenable. Alors bien sûr, on peut parler de dopage, de ce qu'on veut, ça. Il était plus dopé avant que maintenant. J'y crois pas un peu. J'y crois pas du tout. Mais bref. Donc, bien sûr que c'est injuste. Après, le monde est injuste de base, donc ça ne me gêne pas. Mais je pense qu'il faut accepter. Il faut l'accepter comme une évolution, car à l'époque, les sportifs n'avaient pas non plus accès à toutes les connaissances que l'on peut avoir aujourd'hui, ni au matériel d'entraînement, aux compléments alimentaires, etc. Pareil, je te réponds. Les connaissances, là, si je parle d'entraînement, ça fait longtemps que, franchement, il n'y a pas vraiment d'avancée. Aujourd'hui, on chipote sur des trucs. Donc voilà, moi, j'aime bien m'intéresser aux data. Donc la VFC, là, comme je parlais avec mon podcast 51 des secrets du sport avec Sylvain Fréville, voilà. Mais la vérité, c'est que on en parlait avec Bruno Huby dans un épisode plus ancien, mais hyper intéressant, dans les secrets du sport. Les gars dans jogging, dans VO2 Magazine, quand j'étais gamin, quand j'étais de l'athlète dans les années 80. Attends, j'ai commencé l'athlète, j'avais 9 ans. Donc tu vois, 80, de 97 à 2002, en gros, j'ai fait de l'athlète, j'étais abonné à tous les magazines, en muscu, quoi, après. Mais en fait, il y avait déjà tout ça, l'endurance fondamentale, les trucs. Entraînement polarisé, tout ça existait déjà en fait. Donc, bien sûr, dans les années 50, il n'y avait pas, mais dans les années 90, il y avait déjà tout ça. Donc, les connaissances étaient déjà là. C'est juste qu'elles ne te tombaient pas dans le bec et qu'il fallait aller les chercher. Et ça, c'était un gage d'un meilleur apprentissage. Je le vois avec mes élèves, notamment en BPJEPS. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes, donc qui ne sont pas du tout de ma génération. Et je vois, des fois, ils me posent une question et j'essaie de leur reposer une question pour les forcer, entre guillemets, à chercher l'information ou à réfléchir. Parce que si tu ne vas pas chercher l'information par toi-même, tu as beaucoup de mal à la retenir. Je crois que de mémoire, il fallait pouvoir une information 150 à 200 fois pour la retenir. Alors que si tu vas la chercher, ça va être divisé par 10, tu vois. Et parfois, c'est même divisé par 20. Donc, tu vois, si tu n'as plus besoin d'aller chercher l'information, bah, pareil, tu dis au complément alimentaire, le milieu des compléments alimentaires, tu prends les bouquins, les Muscle and Fitness ou les Mondes du Muscle des années 80, 85, on vendait déjà de la glycine, on vendait déjà de la lysine, on vendait déjà plein d'acides aminés. La créatine, c'était interdit, on n'en vendait pas, mais début année 2000, il y en avait déjà. Il n'y a pas de grosses avancées. Il y a des petits trucs qui se font, mais que la plupart des gens, dont toi et moi sans doute, ne prenons pas. Parce qu'à la fin, tu as une liste de compléments alimentaires qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Quand j'avais commencé à m'y intéresser, je sais pas si ça existe toujours, il y avait le Life Extension Mix, qui était un complément, je crois, où il fallait prendre 14 gélules par jour. Il y avait 100, plus de 100 ingrédients différents, tout ça. Ça te coûtait 150 euros par mois. Franchement, c'était. T'avais pas envie de prendre ça, 150 euros par mois pour un complément. Et alors, bien sûr, on va te dire qu'il était complet, mais il n'était pas vraiment complet. Il y avait certains trucs que tu voulais prendre qui n'étaient pas dedans. Il y a de l'amélioration, mais pas tant que ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'avec Superphysique, on se concentre sur les principaux compléments. On va pas commencer à partir dans des trucs, tu vois, hyper spécifiques. Le but, c'est déjà de prendre la base, un multivitamine, des oméga-3. Du collagène, de la glucosamine, s'il n'y en a pas dans ton collagène, nous il y en a dans le super collagène super physique, je revois un petit coup.
Ouais, donc accepter ça comme une évolution, moi j'ai l'impression d'assister à une évolution technologique corrélée à une désévolution humaine. C'est plutôt à ça que j'assiste, c'est des gens de moins en moins capables de faire quoi que ce soit tout seul. De moins en moins capables de compter, de moins en moins capables d'écrire, de moins en moins capables de réfléchir, de moins en moins capables de se remettre en question. De moins en moins capable de trouver des informations, de passer des heures à chercher une info, tout ça. Il n'y a plus personne qui fait ça. Tu poses la question, là, comme tu dis, à ChatGPT ou à je sais pas quel assistant virtuel. Tu poses la question et puis voilà. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose dans ton cerveau. Les gens sont de moins en moins capables de tout. Et ça me dérange. Je continue. Pour moi, le vrai risque, c'est d'ignorer l'IA. C'est un changement majeur comme l'électricité à son époque. Si on ne s'y intéresse pas, on risque de se retrouver largué. Comme ceux qui n'ont pas voulu se mettre à l'informatique et qui se retrouvent handicapés aujourd'hui. L'IA, ce n'est pas juste ChatGPT, c'est aussi des progrès incroyables en médecine, en physique et dans plein d'autres domaines. Bref, j'espère que mon message te donnera matière à réfléchir. Si tu es curieux, n'hésite pas à écouter mon podcast, ça te fera peut-être changer d'avis. À bientôt, un passionné d'IA et auditeur de LeaderCast. Donc son podcast, c'est Tsunam IA. Donc Tsunam-IA, pour ceux qui veulent l'écouter. J'irai peut-être écouter, mais et je vais continuer de répondre. Le vrai risque pour moi, c'est pas d'ignorer l'IA. C'est d'utiliser l'IA sans réfléchir à ce que ça te fait perdre. Sans réfléchir au pour et au contre. C'est un changement majeur, bien sûr, mais quand j'écoute des podcasts un peu technologiques, j'entends, c'est un changement majeur qui va réduire nos heures de travail, qui va nous faire être plus productifs. On va pouvoir remplacer plein de gens qui travaillent. Qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là, tout ça? Et on oublie. On oublie, du moins, ça c'est jamais précisé, que l'être humain qui travaille pas, qui est chez lui comme ça à attendre, il est malheureux. À moins qu'il soit millionnaire, milliardaire, qu'il ait plein de passions, plein d'activités, tout ça, l'être humain, il est fait pour travailler, il est fait pour se rendre utile. Il a besoin de se rendre utile pour être épanoui. Il ne peut pas rester là et attendre que le temps passe. Il est malheureux, et j'en connais plein de gens comme ça, ils ne peuvent pas, quitte à faire un boulot de merde, pour être au moins utile, pour faire quelque chose, tu vois. Mais sinon, c'est pas possible, en fait. Donc, c'est un changement majeur, mais j'ai pas l'impression que ce soit pour le mieux pour l'instant. Tu vois, ce que je vois, c'est que comme à chaque outil, à chaque fois, on se dit, bah voilà, tiens, Facebook, c'est super, tu peux retrouver tes copains qui étaient à l'école. Et c'est vrai, au début, c'était ça, tu retrouvais les gens avec qui étaient au collège, au lycée, t'étais content, tu dis, ah putain, mais qu'est-ce que tu deviens, voilà. Et puis, c'est parti en couille. Instagram, c'est pareil, c'était des gens qui étaient plutôt photographes, qui partageaient des belles photos, tout ça. Aujourd'hui, c'est un monde de faux, c'est que du paraître, de la parade. On te tease sur absolument tout. Si tu rentres pas dans ce jeu
au moins un peu, bah, t'es roulé. Si tu rentres à fond, tu vas être une star. Une star de rien du tout. C'est la télé-réalité mise sur nos téléphones, hein, mise sur les réseaux. Ouais, si on s'y intéresse pas, on risque de se retrouver largué, comme ceux qui n'ont pas voulu se mettre en informatique et qui se retrouvent handicapés aujourd'hui. Je sais pas, est-ce que c'est grave de se retrouver largué et d'être en retard? Est-ce que vraiment l'IA et toutes ces technologies actuelles, hein, on élargit le débat, te permettent d'être plus heureux? Est-ce que tu es plus heureux qu'à l'époque? Est-ce que tu es plus heureux que quand tu allais au vidéoclub chercher ta cassette ou ton DVD pour aller le film, un film qui était, quand un film sortait, c'était incroyable. J'en parlais avec mon pote Bush la dernière fois. T'étais super content d'aller chercher ton film. Tu vois, tu dis, waouh, là, putain, le nombre de merdes qui sortent chaque jour sur les plateformes de streaming, c'est illimité. Et des merdes, des merdes, des merdes, des trucs nuls. Il y en a plein, plein, plein. Aujourd'hui, tu regardes un film, tu vois, c'est comme la surdisponibilité. Le surplus de films fait que, bon, un film, ouais, bon, voilà, c'est pas terrible. Oh, une série, oh, ouais, des fois, tu en trouves sur une bien avec un vrai scénario, tu dis, putain, là, ils ont été. Et souvent, c'est adapté d'un bouquin. Donc, c'est ça le sketch. C'est même pas eux qui ont fait le scénar. Je rebois un coup. Si on ne s'intéresse pas, on va se retrouver largué. Mais en fait, j'ai l'impression que dans ce monde, on est toujours en train de se dire, je suis en train de louper quelque chose, je suis en retard, tout ça. Et pour moi, le problème, la façon de penser est mauvaise parce qu'on n'est pas en retard. En fait, c'est qu'on utilise mal notre temps. Notre temps, on essaye sans arrêt de nous le voler. On essaye sans arrêt de nous dire, voilà comment vous devez l'utiliser. On t'envoie des notifs, on t'appelle, faut que tu utilises l'IA. En fait, du temps, on en a. Mais c'est juste qu'on l'utilise à mauvais escient. On ne l'utilise pas pour ce qu'il faut. Moi, j'ai plein de gens qui m'écrivent, qui me disent, voilà, j'aimerais lancer une activité sur le net, j'aimerais me lancer à mon compte, j'aimerais ci, nanana, mais j'ai pas le temps, je fais ci, je fais ça. Puis en fait, ils font 3 heures de téléphone par jour. On enlève 3 heures de téléphone par jour, t'as 3 heures de plus. Alors bien sûr, c'est un peu dispatché dans la journée, mais t'as au moins 1 heure ou 1 heure et demie pour bosser sur ce que tu as envie. Et je dis bosser pour te faire plaisir, pour t'épanouir, pour être à ce que tu fais. Tu vois? Pour moi, cette surabondance de technologie, elle n'est pas bonne en fait. La plupart des trucs sont pas bons. C'est. Tu vois, tu dis, l'IA, c'est pas juste ChatGPT, c'est aussi des progrès incroyables en médecine, en physique et dans plein d'autres domaines. Pourquoi pas? Mais de ce à quoi j'assiste. C'est que pour l'instant, le monde se divise de plus en plus. Des progrès incroyables en médecine. Quels sont ces progrès? Je ne suis pas spécialiste, donc j'attends que certains d'entre vous soient spécialistes et me disent dans les commentaires, voilà les progrès qu'il y a, voilà ce qu'on peut voir, nanana, et qui sont appliqués. Moi, ce à quoi j'assiste concernant la médecine, c'est que si tu as un problème, si tu vas aux urgences, tu peux crever aux urgences tant qu'on prenne soin de toi. Il n'y a plus assez de monde, il n'y a plus assez de médecins, il n'y a plus assez d'infirmiers, il n'y a plus assez d'aides-soignants, il n'y a plus assez de rien. Alors bien sûr, évolution technologique. Ça va être un robot qui va te prendre en charge, qui va dire, vous avez quoi? Nanana, voilà le diagnostic, prenez ci, prenez ça. Ça, c'est un progrès? C'est pas un progrès. C'est pas un progrès. Le progrès, pour moi, ce serait, et je n'allais pas faire de politique, hein, mais c'est de réévaluer les bas salaires. C'est de diminuer les gros salaires. C'est d'arrêter que des gens prennent des millions et des millions et des millions pour être manager. Ou là, j'ai vu la rémunération de, je ne sais plus quel grand dirigeant là, de Stellantis, qui prend 36 millions de salaire, c'est inadmissible. On va dire, oui, mais vous vous rendez compte, les responsables. Non, c'est inadmissible. Il y a un moment, faut arrêter. Il y a un moment, faut arrêter. Ça, ce serait un progrès. Les gens, là, auraient envie d'être infirmiers, auraient envie d'être médecins. Combien j'ai de copains médecins qui disent, ah non, mais moi, médecin, je fais des petits remplacements, j'ai pas envie de m'installer. Attends, il me dit, t'es malade ou quoi? Pour ce qu'on gagne, on est obligé de se dépouiller pour gagner des sous. On a fait 10 ans d'études. Ça n'a pas de sens. Donc, bien sûr, on essaye de remplacer, encore une fois, on contourne les vrais problèmes par de la technologie. Les gens sont de plus en plus bêtes, ont de plus en plus de mal à apprendre. Donnons-leur l'information plus rapidement, plus facilement. C'est pas ça le problème. Les gens ont du mal à bouger. Vite, faisons des machines. J'ai vu, il y a un truc sur les exosquelettes. Faisons des exosquelettes. Mais c'est pas ça qu'il faut. Ça, c'est de la déshumanisation. Vite, les gens, on manque de personnel qualifié. Vite, remplaçons ça par l'IA. Mais c'est pas ça. Moi, je suis content quand je vais faire mes courses à Leclerc ou à Auchan de voir un caissier ou une caissière souriante. Bonjour, vous allez bien. Je suis content de voir de l'humain. Là, tout est fait pour désociabiliser la société. Je l'ai souvent dit, tout est fait pour que tu interagisses le moins possible. Tu interagis via ton téléphone, tu es caché, tu es tranquille, mais tu n'arrives plus à te parler. Tu n'arrives plus, tu étais là, tu vois, tu es comme si on était tous étrangers alors qu'on est, on a tous besoin de justement de ce côté social, d'échanger avec des humains, de voir des gens. Et ça, on le perd au profit de la technologie, globalement. On le perd. Alors, on peut me dire que c'est du progrès, mais ce n'est pas du progrès pour moi. Ce n'est pas du progrès pour beaucoup d'entre vous. Bien sûr que c'est cool. Et je me souviens, j'avais eu une discussion il y a quelques années avec ma prof d'anglais, quand je prenais des cours d'anglais avant d'aller en Nouvelle-Zélande en 2017. Et elle avait fait prépa, tout ça, et elle se dirigeait, elle est au Canada pour étudier, je ne sais plus, mais un truc un peu technique, tout ça. Et elle avait justement cette réflexion de me dire, voilà, d'un point de vue éthique, tout ça. Je sens que c'est pas bon de continuer là-dedans, de pousser le truc, tout ça. Mais de l'autre côté, j'ai envie de progresser là-dedans, ça m'attire, nanana. Et là, elle était face à un dilemme. À un moment, moi, je crois qu'il faut savoir se poser des limites et se dire, voilà, ça, j'ai pas envie. Ça, on veut me forcer à le faire, ben, je vais essayer de pas le faire. Encore une fois, à chacun de réfléchir à quelle vie il veut. Si lui, il veut être de plus en plus bête, il veut finir comme dans le film Wall-E, mais il n'y a pas de souci, fais-le. Moi, ça m'ennuie. Et ça m'ennuie même énormément parce qu'après, comme une société quand même assez sociale, je vais payer, entre guillemets, de mon temps, de mon argent, de mes efforts pour ces gens-là, pour les soigner, même si ils seront soignés par des robots. Voilà, ce sera moins cher, ce sera moins bien, ce sera tout pourri. Donc je peux pas être d'accord avec toi, Tsunamiya, parce que c'est tout l'inverse de ce que j'imagine être une bonne vie et de comment je veux vivre. Alors peut-être que l'avenir me donnera tort. Et qu'à un moment, je me mettrai à l'IA, je poserai des questions, tout ça. Mais pour l'instant, si j'ai une question, je tape sur Internet, je prends des bouquins, j'en ai plein, je relis des trucs. Et j'ai pas peur d'être en retard, j'ai pas peur d'être largué, parce que j'ai pas peur de louper quoi que ce soit. Tu vois, il y a tellement de trucs, il y a tellement de trucs. Encore une fois, c'est pas le temps dont on manque, c'est le temps de qualité. D'attention, c'est d'être à ce qu'on fait. Tu vois, c'est pas une question d'accumulation. C'est pas une question d'être plus performant. C'est pas une question d'être plus productif. Ça n'a rien à voir avec ça. La dernière fois, j'en parlais avec mon élève Alix, donc qui était venu à la Villa Superphysique la semaine dernière, et qui va lancer un site, tout ça. Et puis, il commence son article. Et puis, je sais pas, il a bossé 3-4 heures dessus. Et il me dit, voilà, j'en suis là, tout ça. Ben, je dis, c'est bien, c'est bien. Et il me dit, mais ça va être long, l'article, là. Il dit, je suis déjà à 1500 mots. Je pense que ça fait au moins 5 ou 6 000 mots. C'est long. Et je lui dis, mais c'est pas grave, j'étais pas pressé. J'ai le but, du moins de mon point de vue, c'est que quand tu écris quelque chose ou que tu fais un contenu, c'est que ça reste, c'est que ce soit de qualité. T'es pas pressé. Et lui, il était un peu paumé au début, parce qu'il disait, putain, c'est une course, vite, 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 vite. Non, pas vite. Tranquille, prends ton temps, fais les choses en conscience, sois à ce que tu fais. Et il n'y a pas, j'exagère un peu, mais plus beau sentiment, plus belle émotion. Que ce sentiment de travail bien fait. Et si les technologies nous empêchent de travailler, réduisent notre temps de travail, qu'on devient une société de loisirs, on voit ce qui se passe. De plus en plus de problèmes mentaux, entre guillemets, de questions existentielles qui n'ont pas lieu d'être, de réflexions qui te pourrissent l'esprit. Alors que quand tu es utile, quand tu travailles, quand tu fais tes trucs, tu es bien. Tu vois, le temps que tu gagnes, en fait, avec tous ces outils technologiques, c'est du bonheur que tu perds. C'est pas plus compliqué que ça pour moi. Et voilà, après, encore une fois, à chacun de faire ses propres choix et de se dire, bah, voilà, quelle vie je veux, qu'est-ce qui est mon bonheur, qu'est-ce qui n'est pas mon bonheur. Et je suis presque convaincu que pour la plupart d'entre vous qui m'écoutez, si vous ne vivez pas du web, voilà, vous pouvez désinstaller Facebook, Instagram, tout ça, de vos téléphones, et je suis sûr que vous serez plus heureux. Moi, j'y suis parce que c'est le boulot. En fait, j'y suis, je mets des petites stories, je mets des petits trucs, tout ça. Mais si je ne bossais pas sur le net, on s'est souvent dit ça avec Fabrice, et ben en fait, je couperais tout ça. Et est-ce que je serais plus malheureux? Ben, je pense pas, en fait. Je pense pas du tout. Je ferais autre chose, quoi. Et ça irait. Donc, je pense pas que la technologie, ce toujours plus, nous pousse à être plus heureux. Je pense plutôt que ça nous déshumanise. Et c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse de ce qui va nous rendre heureux. Et On verra ce que dit l'avenir, mais je suis pas, comme vous savez déjà, je suis pas très confiant concernant celui-ci. Bref, sur ce, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez passé un bon moment. Comme d'habitude, vous pouvez réagir directement dans la partie commentaire sur SoundCloud ou m'envoyer un message sur le lien contact dans la description. Il y en a quelques-uns d'entre vous qui m'ont écrit, dont notamment Léo qui sera à l'Elite Training Symposium ce week-end pour me dire qu'ils faisaient partie de la majorité silencieuse. Ou Morgose aussi, qui m'écrit souvent sur Insta pour me dire qu'ils écoutaient, mais des fois ils voulaient réagir, mais ils ne réagissaient pas, voilà, ils ne prenaient pas le temps. N'hésitez pas à réagir. Encore une fois, les relations humaines, même virtuelles, d'échanges, de vrais échanges, contribuent au bonheur. Et plus que vous ne le pensez, mais vous le saviez déjà. Et puis, je le rappelle, ça fait pas mal. Bref, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous.